RFI, 6h44 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Et avant de revenir sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un instant, un œil sur le reste de l'actualité internationale et sur le Proche-Orient. Après cette nouvelle journée d'échanges de libération entre Israël et le Hamas, hier, 3 otages israéliens et 5 thaïlandais d'un côté, 110 prisonniers palestiniens de l'autre. Et dans la bande de Gaza, les libérations d'otages marquées par des scènes de cohue. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a retardé de plusieurs heures les libérations de prisonniers pour obtenir des garanties. Sur la suite des libérations, le comité international de la Croix-Rouge demande une amélioration de la sécurité et de la dignité pour les captifs. L'armée israélienne poursuit pendant ce temps son opération sur le camp de réfugiés palestiniens de Jenin en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien fait état de 2 nouvelles personnes tué hier soir. Israël qui annonce aussi ce matin avoir frappé plusieurs cibles du Hezbollah dans la vallée de la Beka dans l'est du Liban. Lui promet la paix civile pour son pays. Ahmad al-Shara, président par intérim de la Syrie, donnait hier soir son premier discours à la nation. Il s'engage sur la tenue d'une conférence de dialogue national. Et puis dans l'actualité également, pas d'explication pour l'instant concernant la collision mortelle d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire hier à Washington. Pas de survivants. 67 morts annoncées. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées il y a quelques heures. Enfin, en Ukraine, une attaque de drones lancée par la Russie a fait au moins 9 morts dans une zone résidentielle à Soumy, dans l'est du pays. Il est essentiel que le monde n'arrête pas de mettre la pression sur la Russie pour cette terreur, réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 7h45 à Paris. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine est à la une, évidemment la situation dans l'est de la RDC.
Plus de 1000 blessés en 6 jours à Goma, les hôpitaux sont débordés, titre actualité.cd qui précise que la majorité des victimes sont des civils touchés par des tirs de balles et des explosions d'artillerie lourde. Le site d'information congolais a interrogé Bruno Lemarquis, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC. Selon lequel le manque de médicaments, d'équipements et de personnel soignant met en péril la prise en charge des blessés et augmente le risque de pertes humaines. Les infrastructures médicales de Goma, poursuit actualité.cd, infrastructures déjà fragilisées par des années de conflit, peinent à absorber l'afflux de patients. Plusieurs hôpitaux signalent une pénurie de matériel chirurgical, d'antibiotiques et de sang, compliquant les interventions d'urgence. De son côté, Objectif Info.cd rend compte de la visite à Kinshasa du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, hier. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et le patron de la diplomatie française ont fait le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Il a également été question de l'attaque de l'ambassade de France à Kinshasa par des manifestants cette semaine. Félix Tshisekedi a réitéré ses regrets à la suite de ces incidents malheureux, précise Objectif Info.cd.
Dans la presse africaine également, la fin de la présence militaire française au Tchad.
Le retrait des bases militaires du Tchad, rappelle le journal du Tchad, a été ordonné par le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a estimé que la présence militaire française est devenue obsolète et il a dénoncé l'accord de défense liant les deux pays. De son côté, Tchad Vision parle d'un tournant significatif dans la quête du Tchad pour une autonomie accrue. En renforçant ses forces militaires tout en redéfinissant ses partenariats, le pays aspire à forger un avenir où, nous dit-on, ses intérêts nationaux priment. Se défaire des anciennes chaînes et des dépendances militaires, conclut Tchad Vision, est un défi immense mais aussi une opportunité exceptionnelle pour bâtir une paix durable et une société plus résiliente.
Enfin, au Burkina Faso, la presse s'émeut d'un événement survenu en France, l'expulsion d'une jeune élève burkinabé vers la Belgique. Jeune élève que les gendarmes français sont venus arrêter au sein même de son école.
Reconduite à la frontière, la France ne doit pas tomber dans les trumperies, s'exclame Wakatsera, qui rappelle que la jeune fille a été reconduite à la frontière frontière belge en compagnie de sa mère et de son petit frère sans avoir eu le temps de prendre le moindre effet personnel. Ironie du sort, remarque Wakatsera, c'est en plein cours de français, cette langue qui a la magie de rassembler tous ceux qui la pratiquent autour de fortes valeurs séculaires, que l'adolescente a connu cette mésaventure qui pourrait bien la traumatiser à vie. Une intervention, souligne le site d'information, qui a suscité l'ire de personnes qui se sont rassemblées pour dénoncer cette interpellation à l'école. La ministre française de l'Éducation n'a d'ailleurs pas manqué de procéder à un rappel à l'ordre qui mentionne que les interventions des forces de police et de gendarmerie liées aux procédures d'éloignement sont strictement interdites dans le cadre scolaire. Et Wakatsera de s'interroger, méconnaissance, erreur ou zèle des agents de la gendarmerie qui ont conduit cette opération dont a été victime la jeune collégienne, des investigations seront certainement menées pour déterminer l'origine de cette bavure, car c'en est une, assène le site burkinabé.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup. On le disait, il est donc à Kigali ce matin pour rencontrer Paul Kagame après une entrevue hier à Kinshasa avec Félix Tshisekedi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en République démocratique du Congo et au Rwanda, alors que le président congolais lui-même a critiqué l'inaction de la communauté internationale contre l'offensive du groupe armé M23 et de ses alliés soutenus par l'armée rwandaise. La France s'implique donc diplomatiquement face à l'escalade, alors que ce matin marque aussi un tournant. Le départ tout à l'heure des derniers militaires français au Tchad après la rétrocession de la dernière base, deux sujets et un invité. Pour en parler ce matin, le porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. Il est au micro de Christophe Boisbouvier.
Christophe Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Au nord Kivu et maintenant au sud Kivu, c'est l'escalade militaire. Comment peut-on y mettre fin ?
Alors, c'est une situation effectivement qui est très inquiétante, une situation qui est extrêmement évolutive. Il y a eu des incursions des troupes du M23 soutenues par le Rwanda qui ont pris la ville de Goma, qui se dirigent maintenant vers le sud de la région. C'est extrêmement inquiétant, surtout parce que pour les populations civiles, c'est absolument dramatique. Il y a eu des morts, il y a des milliers de Congolais qui sont sur les routes et qui fuient les combats, et c'est une situation qui doit cesser. Du point de vue de la France, le meilleur moyen de faire cesser cette situation, c'est de trouver une issue diplomatique, une issue par le dialogue entre le président Tshisekedi et le président Kagame, pour pouvoir mettre en place un plan de retrait total de ces troupes du M23 du territoire congolais.
Est-ce que vous demandez aussi le retrait des troupes rwandaises ?
Oui, absolument. Il y a un principe qui est absolument essentiel en la matière, c'est le principe du respect de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Le Kivu est un territoire congolais et effectivement, les troupes étrangères doivent quitter la zone du Kivu.
L'Allemagne vient de suspendre son aide au développement du Rwanda. Est-ce que la France envisage de réduire elle aussi son aide et voire de décider des sanctions contre le Rwanda ?
Pour le moment, il n'y a pas de décision qui a été prise formellement, ni en termes d'aide publique au développement. S'agissant des sanctions, vous savez que ce sont des décisions qui se décident soit à l'ONU, soit au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une discussion que nous devons avoir à Bruxelles avec nos partenaires européens et aux Nations unies, avec l'ensemble des États qui sont représentés au Conseil de sécurité. L'objectif de la France est clair. Après, les moyens qui seront déployés pour permettre d'atteindre une solution diplomatique, c'est ouvert.
En novembre dernier, l'Union européenne, avec un avis favorable de la France, a accordé une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour financer sa projection au Mozambique. Alors du coup, le Congo est en colère. Il ne comprend pas comment vous pouvez soutenir une armée qui viole ouvertement le droit international.
Mais en l'espèce, spécifiquement sur le sujet que vous citez, c'est une aide qui a été apportée au Rwanda dans le cadre d'une opération de lutte contre le terrorisme au Mozambique. Donc ça semblait totalement justifié.
Christophe Lemoine, c'est aujourd'hui que les militaires français quittent le Tchad.
Oui.
Après 65 ans de présence quasi continue dans ce pays, est-ce qu'on peut parler d'un déclin de l'influence française en Afrique ?
Alors, je ne poserai pas la chose comme ça. La fermeture de la base qui a lieu aujourd'hui au Tchad est le fruit d'un dialogue que nous avons eu avec les autorités tchadiennes. Donc il y a eu avec le Tchad une discussion assez constructive d'ailleurs, dans le cadre effectivement d'un redimensionnement du dispositif français. La fermeture de la base est donc en fait la conséquence assez logique. Maintenant, ce n'est absolument pas la fin de la coopération avec le Tchad en matière militaire, mais aussi d'une manière plus générale. cas de la coopération bilatérale avec le Tchad, que ce soit d'aide publique au développement, que ce soit de la coopération économique, que ce soit de la coopération culturelle, d'échange d'étudiants. Enfin, tout cela n'est pas remis en cause, bien au contraire. Il s'agit simplement d'un redimensionnement de notre dispositif militaire. Donc la fermeture de la base qui a lieu aujourd'hui est l'aboutissement assez naturel de ce dialogue que nous avons eu avec les autorités tchadiennes.
Il y a un mois, le président français a regretté l'ingratitude de plusieurs pays africains où des militaires français sont intervenus et pour certains ont perdu la vie. Ils ont oublié de nous dire merci, a regretté le président à propos de ces pays. Ce sont des déclarations humiliantes et inacceptables, a répondu le ministre tchadien des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que le président de la République faisait expressément référence aux opérations qui ont été déployées dans certains pays du Sahel à la demande de ces États.
Vous pensez au Mali ?
Les opérations Barkhane et Serval, je pense notamment au Mali, effectivement, où des opérations extérieures françaises ont été déployées, encore une fois, à la demande de ces pays, c'était en 2013. Les troupes françaises ont été déployées, elles ont permis de lutter assez efficacement contre le terrorisme. La France a perdu dans ces opérations 58 soldats français, et je pense que c'est à ça que faisait référence le président de la République. C'était pas une critique qui s'adressait aux Tchadiens, qui, pour le coup, n'étaient pas concernés par ces opérations. Encore une fois, je pense qu'il faut être assez précis dans la situation et ne pas mélanger les choses. Les mots du président de la République concernaient expressément ces opérations Barkhane et Serval qui ont été déployées par la France, encore une fois, à la demande des pays concernés.
Christophe Lemoine, merci.
Le porte-parole de la diplomatie française, Christophe Lemoine, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Bientôt 7h en temps universel sur RFI dans moins de 5 minutes, c'est le journal de Marion Kazanov. Mais d'abord votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous parlez aujourd'hui d'un défi que beaucoup se fixent chaque début d'année, passer tout le mois de janvier sans boire d'alcool.
Oui, ils l'appellent là-bas le dry January, en français facile, janvier sec. Ici comme là-bas, il s'agit d'une décision que beaucoup prennent en début d'année. Faire une pause dans la consommation d'alcool et passer le premier mois de l'année sans en prendre une seule goutte. Man, c'est comment non ? Tu ne fais que boire seulement les jus. Tu es malade ? Laisse mon frère, j'ai rendez-vous avec la bière seulement en février. Alors que certains se donnent de grandes résolutions pour la nouvelle année, qu'ils ou elles transgresseront comme tous les ans avant la fin du premier mois, d'autres se promettent simplement un janvier sans alcool. Mince mon frère, comment l'eau si est fraîche comme ça ? J'avais même déjà oublié le goût de l'eau, hein ? Se priver d'alcool après les beuveries de décembre revêt un aspect économique lorsqu'on sait que durant chaque mois de janvier, sévit l'épidémie de maux de poche et que l'agence y sort d'où. Donc, 1000 francs pouvaient encore faire une semaine dans ma poche jusqu'à j'oublie même que j'ai l'argent. C'est vrai que si j'économise l'argent que je dépense pour la bière par an, je peux même construire une maison avec, hein. Le mois sans alcool fait aussi beaucoup de bien à l'entourage de la personne qui s'en prive. Chérie, donc tu pouvais aussi passer tout un week-end à la maison sans bouger. Hey, vraiment, si janvier pouvait durer toute l'année, je serais la femme la plus heureuse. Tu ne vois pas que si tu as tenu un mois sans alcool, une année c'est rien, non? Hein? Pardon, prolonge alors jusqu'en février. Si le défi du mois sans alcool paraît simple, le relevé n'est pas aussi facile que ça, hein? Comment janvier si dur même comme ça? C'est comme si le mois a 365 jours. Janvier sans alcool est une espèce de jeûne alcoolique et comme dans tous les jeûnes, tout comme une miette rebelle mal essuyée sur les commissures des lèvres en plein carême vient trahir qu'un jeûneur en public déjeune en privé, certains jeûneurs du mois sans alcool sont soupçonnés de délits de rupture de jeûne. Chérie, comment tu marches comme ça? Et tes yeux sont un jas. Tu es sûr que tu n'as pas bu? Beaucoup rompent le pacte entre eux et eux de façon alcooliquement assumée. Man, façon tu allumes déjà les bières là. On est encore en janvier, hein? Et alors? C'est moi-même qui ai dit que j'arrête. C'est moi-même aussi qui ai décidé de relancer les hostilités. Bravo à ceux qui ont tenu le pari du janvier sans alcool et pour ceux qui ont craqué avant la fin du mois, que celui qui n'a jamais alcooliquement péché lui lance la première bière. À février.
À février, oui, Charlotte, à vendredi aussi. Et merci beaucoup, et bien sûr avec modération, toujours. Bienvenue sur RFI. Si vous nous rejoignez en ce vendredi matin, le journal est dans moins de 2 minutes. Je vous disais que c'était avec Marion Kazanov, c'était avec Arthur Ponchelet. Vous le retrouvez tout de suite. À tout de suite.
Biela Real Courts et RFI Talent présentent Gabriela Lima. Découvrez Meu Lugar, le deuxième single de l'artiste brésilienne. Disponible sur toutes les plateformes.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, est plongée dans une crise profonde. Confrontée à une panne de croissance, à une activité au ralenti, les patrons sont en colère à quelques semaines d'élections indécises. Nous analyserons les raisons de ce marasme et les conséquences pour l'ensemble du continent.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu. Le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
En ce début d'année 2025, des incendies gigantesques ont ravagé des milliers d'hectares autour de Los Angeles. Comment couvrir une telle catastrophe ? Dans Témoin d'actu, Loïc Piala partage son expérience et les défis journalistiques dans ce contexte de destruction et de reconstruction à venir.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.